Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung.
Bonsoir. Situation sanitaire préoccupante dans plusieurs zones de santé en RDC. Réapparition de la fièvre hémorragique Ebola en province orientale et résurgence des épidémies telles que le choléra, la méningite, le monkeypox et la rougeole à l'Équateur. Comment expliquer la résurgence de toutes ces maladies et que faire pour les éradiquer? Pour en parler, nous recevons Dr Félix Kabangé-Numbi, ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir, merci.
Docteur Kabamba Mbwebwe, médecin à l'hôpital général de Kinshasa. Il est président du parti politique Front Patriotique de la plateforme G14. Docteur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Kabongo, analyste politique, il est docteur en philosophie. Docteur Kabongo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Tamboué de Kananga au Kassai occidental, le budget alloué à la santé en RDC est insignifiant pour éradiquer ces épidémies. Kasongo de Kisangani en province orientale, quelles ont été les dispositions prises par le gouvernement quand l'épidémie d'Ebola a surgi en Ouganda à quelques kilomètres de la RDC? Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Docteur Félix Kabangé-Numbi, je rappelle que vous êtes ministre de la Santé publique. Commençons par l'épidémie du virus Ebola que vous avez déclaré le 17 août dernier. 12 cas, dont 7 décès des personnes souffrant de la fièvre hémorragique Ebola, ont été identifiés en province orientale. Quelle est la situation à ce jour?
Merci beaucoup. À ce jour, la situation se présente comme suit. Nous avons un total cumulé de 16 cas. Dont 10 décès, soit un taux de létalité de 62,5%. Les 16 cas et les décès sont répartis comme suit. Au niveau de Dungu, nous avons un cas et un décès. Au niveau d'Isiro, 9 cas, 5 décès. Au niveau de Viadana, nous avons 3 cas, 3 décès. Au niveau de la zone de santé de Paoua, nous avons 2 cas et un décès. Et enfin, au niveau de la zone de santé de Gombari, à l'hôpital de Mungwere, nous avons reçu un nouveau cas et il n'y a pas de décès. Et aux côtés de ces 16 cas, nous comptons 88 contacts. Donc, nous avons pu identifier 88 personnes qui ont été en contact avec ces 16 personnes qui ont présenté les signes de fièvre hémorragique, dont 84 ont été vus aujourd'hui. En ce qui concerne les prélèvements, nous avons à ce jour fait 9 prélèvements sur les 16 cas et 2 se sont avérés positif. Et parmi les zones de santé qui sont sous haute surveillance maintenant, ça veut dire là où on identifie des cas suspects, c'est notamment la zone de santé de Wamba. Voilà comment se présente la situation ce jour.
Alors, pour des raisons pédagogiques, il semblerait que les symptômes d'Ebola soient communs à beaucoup d'autres maladies, mais comment est-ce qu'on arrive à déceler que ça c'est Ebola, ça ce n'est pas Ebola?
Merci beaucoup. Nous avons fait la définition de cas. En fait, la définition de cas englobe plusieurs signes pour ne pas passer à côté. Mais à côté de ces signes bénins qui sont communs à une fièvre, une grippe, un paludisme, une grippe banale, nous avons ces hémorragies. Parce qu'en fait, quand on dit fièvre hémorragique, nous avons deux signes quand même qui émergent au-delà de tous ces signes bénins. Il y a notamment la fièvre et des hémorragies inexpliquées que la personne peut présenter. Et par exemple, quand quelqu'un reçoit une piqûre, vous allez vous rendre compte que l'hémorragie ne tarit pas au point de piqûre, ainsi de suite. Donc, ce sont des signes qui, en fait, distinguent la fièvre hémorragique. Mais au départ, on inclut d'abord tous les cas avant d'en faire ressortir les cas qui réellement font la fièvre hémorragique.
On sait que cette épidémie du virus Ebola a commencé en Ouganda en début juillet, mais il semblerait, d'après certains spécialistes, que la souche du virus identifiée en RDC est moins mortelle que d'autres souches.
touche connue, mais reste quand même dangereuse.
C'est sous réserve que nous devons dire cela, parce que c'est vrai qu'on a pu mettre en évidence la souche Ebola Bundibugyo, qui est une souche dont la létalité n'est pas aussi élevée que la souche Zaïre, parce que la souche Zaïre, c'est la souche la plus dangereuse de toutes les souches Ebola, dont le taux de mortalité avoisine les 90%. Donc ici, nous avons la souche Bundibugyo, alors qu'en Ouganda, on avait la souche Soudan. Donc le taux de létalité est certes faible, mais cela ne doit pas influencer notre prise en charge, parce que nous avons eu un cas qui a été identifié comme Bundibugyo. Cela ne peut pas exclure que nous nous retrouvions sur terrain avec deux souches qui peuvent coexister. Voilà pourquoi l'alerte reste élevée au niveau du ministère de la Santé.
Je reviens à la question de Kasongo de Kisangani en province orientale que j'ai lue dans le sommaire, monsieur le ministre. Quelles ont été les dispositions prises par le gouvernement quand l'épidémie d'Ebola a surgi en Ouganda à quelques kilomètres de la RDC?
Merci beaucoup. Nous avons pris énormément de dispositions et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, au moment où nous déclarons l'épidémie, d'être presque en phase de la contrôler ou d'être en train de la contrôler partiellement. Tout simplement parce que quand nous avons eu justement ce problème en Ouganda, nous avons commencé par renforcer justement la surveillance aux frontières, principalement dans la province orientale et au nord Kivu, notamment autour de l'axe Beni-Butembo. Ensuite, nous avions déjà au préalable prépositionné du matériel de prélèvement et du matériel de protection du personnel de santé, et nous avions également transmis la définition des cas au niveau de différentes structures de santé. Voilà pourquoi les premiers cas ont été rapidement identifiés, ont été isolés et on a pu établir automatiquement également les contacts.
D'après certains spécialistes, monsieur le ministre, Ebola fait partie des maladies qui nécessitent une notification hebdomadaire à l'OMS, c'est-à-dire que chaque semaine, tous les centres de santé du pays doivent adresser un rapport indiquant si une suspicion existe, même s'il n'y a rien. Cela est-il possible en RDC quand on connaît toutes les difficultés que rencontrent les services sanitaires?
C'est possible, monsieur le journaliste, ça se fait. Nous avons une quinzaine de maladies qui sont sous surveillance épidémiologique obligatoire en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi chaque semaine, nous avons ce que nous appelons le relevé épidémiologique hebdomadaire qui nous permet de passer en revue les différentes maladies. Je peux vous en citer quelques-unes parmi les maladies qui sont surveillées obligatoirement chaque semaine. Vous avez la rougeole, vous avez la peste, vous avez les diarrhées simples, vous avez le paludisme, vous avez le monkeypox, vous avez les fièvres hémorragiques, vous avez les diarrhées et vous avez toute une série d'autres maladies, notamment la méningite, le tétanos, qui sont surveillées. Et à ce jour, nous avons 3 des 15 maladies qui sont à potentiel épidémique, qui sont en train finalement de s'exprimer en épidémie. Vous avez le choléra, vous avez la fièvre hémorragique, bien sûr, qui est en ce moment en train de sévir au niveau de la province orientale, et nous avons également la rougeole.
Docteur Kabamba Mbouéboué, vous êtes médecin à l'hôpital général de Kinshasa, président du parti politique Front Patriotique de la plateforme G14. D'abord sur le virus et la fièvre hémorragique Ebola, quel est votre commentaire?
Bon, je pense que c'est pas la première fois qu'on parle d'Ebola. Il faut intérioriser le fait que si on veut une santé publique qui a un certain niveau, il faut y mettre les moyens. Aujourd'hui, peut-être on est en train de parler de la fièvre hémorragique, mais plus près de nous, dans les hôpitaux de l'État, quand on essaie de circuler, on va constater qu'il y a des maladies qui tuent presque chaque jour sans qu'on en fasse du bruit. Je voudrais parler de la fièvre typhoïde, je voudrais parler du paludisme, je voudrais parler de plusieurs maladies parasitaires et qui, en tout cas, chez les enfants, ont un taux de létalité très élevé. Je voudrais tout simplement dire que l'approche préventionnelle dans notre milieu serait la meilleure, compte tenu de toutes les difficultés que nous connaissons. La prévention aurait pu aider notre population et la République démocratique du Congo de pouvoir éviter de retomber chaque fois dans les mêmes problèmes. et qui parle prévention, il faut intégrer plusieurs facteurs environnementaux. Hein. Il y a des facteurs éducationnels, il y a des facteurs informationnels, il y a des facteurs d'hygiène, il y a beaucoup de facteurs qui doivent intervenir et qui doivent nous aider. Ceci signifie qu'il faut y consacrer les moyens conséquents. Quelle que soit la bonne volonté, j'ai suivi le ministre, quelle que soit la bonne volonté que nous pouvons avoir, mais le fait que les différents secteurs ne sont pas soutenus par des moyens conséquents pour que nous puissions mieux, comme on le dit, en médecine on nous a appris, mieux vaut prévenir que guérir. Quand vous avez une maladie comme la fièvre hémorragique qui à 60% ou à 80% tue, mieux vaut l'éviter et agir en amont plutôt que d'agir en aval. Or, notre santé, malheureusement, depuis que le régime Mobutu est tombé, ne fait que péricliter, nous ne voyons pas des signaux forts pour vraiment créer la rupture par rapport à cette politique de suivisme. Nous sommes dans les conséquences plutôt qu'agir en amont. Voilà.
Docteur Kabamba Mbwebwe, il y a votre collègue docteur Michel Mouvoudi qui est spécialiste en santé publique à l'Université Notre-Dame du Kassai. Je prends la dernière partie de sa réaction. Il dit la RDC a connu plusieurs cas d'épidémie d'Ebola, mais il me semble que les leçons apprises ne sont pas capitalisées.
Je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas la première fois, j'apprends du ministre qu'ils ont des secteurs ou des postes au niveau des zones de santé ou des centres de santé qui doivent alerter. Donc quelque part dans les maillons de la chaîne qui doivent amener l'alarme, il y a quelque chose qui peut-être n'a pas fonctionné. Le grand grief pour la plupart des médecins, parce que ça c'est une question purement scientifique, il n'y a aucunement une intention passionnelle qu'on peut mettre là-dedans. À partir du moment où vraiment on ne met pas le paquet dans la prévention, on ne tire pas les leçons du premier Ebola qu'on a eu. Le premier Ebola qu'on a eu, ça fait plus d'une trentaine d'années. Donc on aurait pu tirer les conséquences, y mettre le moyen et arriver à arrêter, parce que dès que ça se déclare, la catastrophe, la létalité, la mortalité est très élevée. Maintenant, nous allons gérer les conséquences alors qu'on aurait pu monter en amont et tirer les conséquences de ce que nous avons eu comme virus Ebola. Donc je suis tout à fait d'accord avec le confrère qui a donné ce point de vue, c'est le mien d'ailleurs.
Docteur Emmanuel Kabongo, vous êtes analyste, également docteur en philosophie. Êtes-vous du même avis qu'on gère plutôt les conséquences que les véritables problèmes?
Merci beaucoup. Je voudrais saluer le ministre à côté de moi, comme je le rencontre. Je voudrais dire ici que quand vous lisez tous les rapports qui sont publiés par l'OMS sur la République démocratique du Congo ces 10 dernières années, un constat se dégage. Le premier, c'est que plusieurs constats se dégagent. Le premier, c'est que la plupart des maladies éradiquées ailleurs ont ressurgi avec virulence en RDC. Et là, on trouve, il y a 10 années, c'était la tuberculose, et puis la lèpre, la fièvre Ebola, le choléra s'est installé pratiquement chez nous, et il n'y a pas un coin où on ne parle pas de choléra, parce qu'il y avait de choléra il y a quelques jours ici à Maluku, il y a le choléra à Matadi, comme vous venez d'en dire, il y en a à l'Équateur. Donc, il y a ce constat-là. Le deuxième est que on justifie cette recrudescence et cette consolidation des maladies éradiquées ailleurs par le fait que l'État congolais est presque inexistant. L'État en tant que force de prévention, l'État en tant que force de gestion de l'immensité de notre territoire a été pratiquement assassiné. Ce qui fait que aujourd'hui l'État agit comme une sorte d'excroissance qui fait des suivismes, qui est attiré par des choses qui arrivent et qui ne peut pas, qui n'a pas le moyen ou qui ne veut pas en donner, pour faire une véritable politique de santé publique. Et d'ailleurs, quand on regarde dans notre budget, quand on voit les secteurs sociaux avant que Matata Ponyon arrive, ce secteur n'est dépassé vraiment pas 15%. C'est-à-dire oui, l'enseignement, la santé, tout. Donc, on pense que il y a là une véritable problématique. De l'autre côté, des choses, comme on a parlé ici de la prévention, c'est-à-dire quand on voit toutes les maladies des mains sales qui sont installées chez nous, choléra, tout ça, maladie diarrhéique, on se rend compte que de plus en plus, au Congo, les gens accèdent difficilement à l'eau potable. Moi, je vis dans un quartier où, depuis 3 ans, nous n'avons pas de l'eau qui coule au robinet. Nous vivons de l'eau du puits. Et oui, chaque jour, quand vous voyez la statistique, on dit c'était 7% des Congolais qui accédaient à l'eau potable. Maintenant, ça descend, c'est à 6-5. Je pense que nous nous installons dans une zone d'endémie permanente. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons constater que l'État au Congo a été assassiné par des forces obscures, c'est-à-dire nous n'avons plus de capacité de riposte raisonnable face aux dégâts, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de la santé. Nous, n'est-ce pas, l'absence d'une puissance régulatrice s'est fait sentir, et je crois que c'est une problématique qui mériterait vraiment d'être discutée.
Nous avons parlé de la province de l'Équateur. Nous allons nous y rendre pour dire que la situation sanitaire est préoccupante avec des épidémies dans plusieurs zones de santé que compte cette province. Aux épidémies de choléra et de rougeole qui sévissent depuis l'année dernière s'ajoutent celles de méningite et de monkeypox qui ont fait leur réapparition. Si des actions de riposte s'organisent contre le choléra et la rougeole, des démarches sont plutôt en cours pour lutter contre la méningite, mais aucune encore pour le monkeypox. Avec Dominique Wolombi Mongapange.
Bien que l'on observe la tendance à la baisse des cas de choléra pour l'ensemble de la province, on continue à enregistrer cependant des nouveaux cas de cette maladie. Des 44 nouveaux cas dans 28 zones de santé touchées, Makanza à elle seule compte 14 cas dont un décès. Selon la cellule de crise, le désengagement de l'ONG Ali Maki à pied la prise en charge des malades dans cette zone de santé est jugé prématuré, car celle-ci n'a pas la capacité d'assurer la relève. Des cas suspects de méningite sont signalés dans les zones de santé de Bouamanda et de Bosobolo. Bouamanda compte déjà 149 cas avec 50 décès. C'est Ebosobolo 26 cas avec 3 décès. L'ONG Médecins sans frontières envisage de mener une campagne de riposte contre la méningite, surtout dans la zone de santé de Bosobolo où sont concentrés plus de 1800 réfugiés centrafricains depuis mai dernier. Mais elle attend d'abord les résultats des analyses des échantillons envoyés à l'INRB à Kinshasa. L'épidémie de rougeole se généralise sur plusieurs zones de santé. 4 districts, à savoir l'Équateur, la Mongala, le Sud-Ubangi et la Chuapa, en sont touchés. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangi, Radio Okapi.
Merci Dominique. Wolombi Mongapangé. De l'Équateur, nous nous rendons en province orientale où le district de l'Ituri dans son ensemble ne dispose pas de vaccin de routine depuis plus de 2 mois. D'après les autorités sanitaires de la place, le stock des vaccins destinés à l'Ituri traîne à Kisangani faute de moyens de transport. Le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, lui, indique que les démarches sont en cours pour ravitailler toutes les 36 zones de santé de ce district qui compte près de 8 millions d'habitants. Explication Jean-Claude Loki.
Selon le médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination à Bounia, les vaccins qui manquent sont ceux contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, la tuberculose et l'hépatite. Ajouté à cela, le vaccin antitétanique qu'on administre aux femmes enceintes à l'hôpital de la Cité, par exemple, le médecin responsable dit que depuis le mois de juin dernier, qu'elle ne sait plus que faire pour les femmes qui viennent à la consultation prénatale. Elle dit entendre le ravitaillement à partir de la zone de santé. Du coup, si une femme enceinte est touchée par le tétanos, par exemple, son bébé sera automatiquement exposé. La même situation se présente aussi à Aro où les formations médicales éprouvent des difficultés pour se ravitailler en vaccin. Pour Bounia Ndjougou, près de 110 500 enfants de 0 à 11 mois sont pénalisés. Contacté, le médecin coordonnateur provincial de PEV indique que son organisation fait face à une contrainte budgétaire pour acheminer le lot de vaccins en Ituri. Dr Koumbani précise cependant, sans fixer une date, que des contacts sont pris avec des partenaires en vue de décanter la situation. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Merci Jean-Claude Loki. Monsieur le ministre Félix Kabangé-Numbi, comment vous expliquez la résurgence de ces maladies? Docteur Emmanuel Kabongo a parlé de l'inexistence de l'État congolais. Docteur Kabamba a parlé de l'approche préventionnelle qui n'était pas priorisée et du manque des moyens.
Merci beaucoup. Je sais qu'on peut revenir sur le problème de moyens, sur des problèmes organisationnels, mais je pense qu'il y a des explications par rapport à toute à la résurgence de toutes ces maladies, où les responsabilités devront être partagées à tous les niveaux. En ce qui concerne le monkeypox dont vous venez d'évoquer, ainsi que la fièvre hémorragique d'Ebola, j'aimerais signaler qu'il s'agit là des zoonoses. Donc ce sont des maladies, en fait, dont dont les porteurs sont des animaux. Donc là, nous sommes en difficulté quand il s'agit des animaux, parce que le monkeypox, on accuse notamment les singes, les écureuils. Pour Ebola, c'est notamment la chauve-souris frugivore et le porc, les antilopes de bois. Donc là, c'est vraiment une activité de l'homme. Lorsque l'homme est en contact avec un animal, généralement, c'est lorsqu'on trouve un animal mort, comme nous avons eu le cas de Dungu. Le premier cas de Dungu, c'est un chasseur qui est parti dans la forêt, il a trouvé une antilope morte et il l'a manipulée et c'est comme ça qu'il a été contaminé. Donc là, ce sont des cas qui sont très difficiles à maîtriser. Donc c'est venu, ça vient de la forêt, du contact entre l'homme et la forêt. Mais il y a...
Encouragé par la pauvreté.
Bien sûr, on ne refuse pas, mais même si les conditions s'améliorent, l'homme ne pourra pas ne plus aller dans la forêt pour chercher la viande. Donc, je disais que par rapport justement aux autres maladies, notamment le choléra, c'est une maladie demensale. Donc là, nous avons un problème sérieux. Le choléra, c'est l'hygiène individuelle, c'est l'assainissement du milieu et c'est notamment également le problème d'adduction en eau potable. Nous devons avouer que le taux de la population desservie en eau potable au niveau de la République démocratique du Congo est très bas, mais des efforts sont en train d'être faits par le gouvernement pour que ce taux soit ramené à un niveau plus élevé. Et en ce qui concerne l'hygiène individuelle, c'est la sensibilisation. Je suis d'accord que nous devons faire encore plus dans la prévention parce que ce sont des maladies qui sont évitables. En ce qui concerne la rougeole, la méningite qui sont citées, particulièrement pour la rougeole. La rougeole, je dirais tout simplement qu'il y a peut-être deux raisons qui peuvent évoquer cette résurgence de la rougeole. La première raison, c'est une couverture faible en vaccination. Il faut avouer que parfois le fait que l'accessibilité géographique pose parfois problème, nos mamans, malheureusement, très peu sensibilisés, ne font pas l'effort pour aller vers les structures de santé pour amener leurs enfants. Ça, c'est une des raisons de cette couverture vaccinale qui est faible, mais il faut noter également un problème assez sérieux depuis un certain temps dans la logistique de la chaîne de froid au niveau du PEV, parce que le vaccin contre la rougeole, c'est un vaccin qui exige des conditions particulières de préservation.
Mais, monsieur le ministre, on a vu la situation de l'Ituri où c'est 8 millions de personnes, l'Ituri c'est 8 millions d'habitants et il n'y a pas de vaccin, ça fait 2 mois. N'y a-t-il pas une certaine négligence quelque part? C'est juste dû à un problème de transport.
Je pense que ça ne concerne pas l'Ituri dans l'ensemble. Ça doit être un problème isolé par rapport à quelques structures et nous allons nous y atteler parce qu'au niveau national, je venais de vérifier avant de venir, nous avons un logiciel de contrôle de vaccins, un logiciel que nous avons mis en place avec le programme élargi de vaccination pour que chaque semaine, nous puissions savoir quelle est la situation du vaccin à travers la République, à travers les provinces et à travers les antennes. Nous n'avons pas eu l'alerte, donc c'est un problème au niveau local auquel nous allons nous y atteler. Si réellement il s'avérait que ce problème est vrai, parce que les moyens sont disponibles auprès des partenaires au niveau du gouvernement.
Docteur Kabamba Mboibwe, vous venez de suivre le ministre, également les deux situations de l'Équateur et de l'Ituri. Le ministre dit que les responsabilités sont partagées.
Oui, écoutez, enfin, je les salue d'abord au passage, le confrère. Mais je pense que la plus grande responsabilité, quand bien même j'accepterai le fait qu'il puisse y avoir une certaine un certain équilibre à trouver au niveau des mais la plus grande responsabilité, c'est celle de l'État, c'est du gouvernant. Je crois que il faut dire un peu les choses telles qu'elles sont. Prenons l'exemple, je ne sais pas, des chauves-souris, les singes qui transmettent le monkeypox et tout ça. Il y a un problème, c'est que en réalité, il ne faut pas attendre que les maladies se présentent pour demander à notre population de ne pas consommer de la viande, par exemple, d'un animal qu'on a trouvé mort en forêt. Ça, il ne faut pas attendre qu'il y ait l'épidémie. Il faut que, au niveau de l'information, c'est là que nous disions que le problème de santé publique ne sont pas à isoler seulement à l'administration des médicaments. Il y a plusieurs facteurs environnementaux, il y a des problèmes informationnels. Nous devons répéter tout le temps, même si nous n'avons pas, en tout cas, l'épidémie, dire aux gens, quand vous trouvez un animal mort, hein, quel que soit le lieu, il ne faut pas le consommer parce que vous ne savez pas de quoi il est mort. N'attendez pas qu'il fasse sa fièvre hémorragique ou qu'il fasse monkeypox pour que vous puissiez poser des problèmes. Ça, c'est un premier élément que j'ai voulu donner. Le deuxième, c'est que vraiment la santé publique, j'ai l'impression que nous faisons visage de parents pauvres par rapport à d'autres départements. On va dépenser beaucoup d'argent, par exemple, on va mettre dans les services de sécurité, mais si vous regardez le budget de la santé publique, en 59, le budget de la santé publique prenait 16%. J'ai eu ce document au niveau de l'ambassade de Belgique, 16% de tout ce qu'il y a comme allocation générale au niveau du pays était donné à la santé publique. Mais aujourd'hui, j'aurais souhaité qu'on me dise combien de pourcents on donne à la santé publique. Ça, c'est un problème important. Alors, en dehors du problème de l'eau qu'on a souligné tout à l'heure, il y a un problème aussi d'hygiène. Vous savez, la promiscuité dans laquelle nous vivons, est-ce qu'on a vu le type de latrine que nous avons? Prenons rien que Kinshasa, la capitale. Quel type de latrine? Je suivais il n'y a pas longtemps sur Radio Okapi qu'il y a un problème de latrine à Mouenéditou. Bon, ça, c'est plus... Alors, si ici à Kinshasa, les latrines posent autant de problèmes, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Regardez comment on expose les denrées alimentaires. Et c'est là que nous portons peut-être la responsabilité au niveau individuel, mais aggravée par le fait que sur le plan informationnel, à la radio, à la télévision, nous voyons beaucoup plus de musique. Nous voyons beaucoup plus d'autres choses que l'éducation qui vient pour que les gens puissent tenir en compte la santé comme étant quelque chose d'important. C'est pour ça que j'ai toujours dit, la responsabilité que nous portons, c'est d'abord le gouvernement. C'est lui qui doit nous donner de l'eau potable. C'est lui qui doit faire des efforts de façon que l'information soit apportée au plus démunis qu'ils comprennent qu'il y a des dangers. C'est avec lui que des facteurs environnementaux doivent être pris en charge. Je termine par le fait. C'est bien qu'on soit en train de parler de monkeypox. C'est bien qu'on parle de méningite qui surgissent comme épidémie. Mais chaque jour ici, des gens qui meurent de malaria, les gens qui meurent de fièvre typhoïde avec des péritonites sur perforation intestinale d'origine typhique, il y en a plein chaque jour dans les hôpitaux de l'État et ça pose des problèmes. Et nous revenons toujours aux maladies des mains sales qui sont évitables. Voilà un peu mon point de vue.
Alors, je vais prendre quelques réactions des auditeurs. Pour vous, docteur Kabamba, il y a Lambert Mwamba de Mbujimaï au Kasaï Oriental. La résurgence de toutes ces épidémies jadis éradiquées par les colonialistes dénote de la mauvaise politique sanitaire dans notre pays. Nous n'avons pas su maintenir et développer les infrastructures sanitaires et hospitalières héritées des Blancs et nous en subissons les conséquences. La population a augmenté, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Quant à Ebola, il est question d'encourager les chercheurs congolais et d'investir dans la recherche d'un vaccin ou d'un traitement. À ce sujet, j'aimerais savoir où nous en sommes. Je pense que le ministre nous donnera la réponse en temps opportun. Michel Mandro Ndarou de la Suisse, j'encourage le ministre de la Santé pour toutes les initiatives. Ses prédécesseurs ont trouvé ces maladies, les ont gérées et les ont laissées là. Mais vous, vous faites ce que vous pourrez. Mais toutes ces maladies ne sont que des conséquences d'un pays qui est lui-même malade. Le traitement le plus efficace à donner, c'est de soigner le pays dans sa globalité, car caractérisé par une malnutrition aiguë et chronique, une pauvreté sévère, un environnement partout défectueux, pas d'accès à l'eau potable, rupture intempestive en vaccin de routine, etc. Mais c'est un pays lui-même malade qui ne peut être soigné que par une politique de développement intégrée et efficace. Docteur Kabamba.
Je suis tout à fait d'accord entièrement. C'est pratiquement ce que nous disons, peut-être en des mots différents, tout ce que je dois ajouter à ce tableau sombre, parce que quand on est en train de parler de la santé, il n'y a pas lieu pour une complaisance. Je crois que indépendamment de tous les éléments qui ont été soulignés, il y a aussi la mégestion qui est inhérente à certains des responsables qui sont dans la chaîne de la santé. Il y a des gens qui sont aussi désignés par clientélisme politique. Hein. Je m'excuse beaucoup. Son Excellence Monsieur le Ministre est là, je crois qu'il comprend très bien ce que je veux dire. Il y a des gens qui n'ont pas toujours la compétence voulue et il y a des gens qui bénéficient de certains protectionnismes en cas de détournement ou en cas de déviationnisme total par rapport aux tâches qu'on leur a confiées. Le Congo est malade effectivement, il est malade dans plusieurs secteurs.
Alors, docteur Emmanuel Kabongo, je vous donne la parole tout à l'heure. Le temps de nous rendre à Mweneditu au Kasaï oriental, docteur Kabamba en a parlé. La plupart des parcelles manquent des toilettes, douches et même des poubelles. C'est le constat à mi-parcours des agents du service urbain de l'aménagement du territoire qui contrôle et vérifie depuis une semaine l'existence et l'état des installations hygiéniques dans les parcelles résidentielles et commerciales. Selon le responsable de ce service, le constat est amer, comme le témoigne Ali Boukassa de la radio Tout Entier.
Nous sommes au centre-ville de Mweneditu. La plupart des restaurants n'ont pas de toilettes ni de poubelles. À certains endroits, la voie publique est même transformée en champ. Ici, certains services publics sont entourés de brousses. De l'autre côté, des tas d'immondices sont visibles sur la chaussée ou le long des artères. Insalubrité que déplore le chef du bureau urbain de l'aménagement de territoire, pour Marcel Kabamba. Le constat est désolant. 8 parcelles sur 10 n'ont ni toilettes ni puits à ordures. Toujours au centre-ville, ajoute-t-il, 5 parcelles sur 10 n'ont pas de douche. Les locataires se lavent en plein air le matin ou encore tard la nuit. Selon la même source, nombre de ces installations hygiéniques sont des fortunes. Signalons que ce contrôle de salubrité est à sa première phase. Initié par le maire de Mweneditu, cette campagne consiste à d'abord sensibiliser la population. Selon le chef du bureau urbain de l'aménagement des territoires, après la ronde de la ville, une deuxième phase est prévue. Cette fois-ci, son service va procéder au contrôle de ces installations hygiéniques. Ceux qui ne vont pas se conformer aux recommandations seront sanctionnés. Mweneditu, Ali Boukassa Kabambi, Radio Tout Tenté pour Radio Okapi.
Merci Ali Boukassa. Docteur Emmanuel Kabongo, 8 parcelles sur 10 qui n'ont pas de toilettes, qui n'ont pas de douche, c'est quand même catastrophique.
Oui,
pour une ville comme Mweneditu, une grande ville.
Oui, on a l'impression que depuis une vingtaine d'années, la guerre sévit dans les frontières congolaises. S'est installée une autre guerre au niveau, à l'intérieur, n'est-ce pas? Une guerre de pandémie, des épidémies qui déciment plus même que la guerre par les armes. Et que ce genre de guerres s'accentue par, n'est-ce pas, par la pauvreté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, au Congo, et je l'ai dit tout à l'heure aussi, quand vous lisez tous les rapports qui sont publiés par PNUD en ce qui concerne, n'est-ce pas, les conditions de vie, nous sommes à la queue, et dans une société où il y a une très grande pauvreté, où les gens n'accèdent pas aux revenus fixes et stables, où les gens n'accèdent pas à l'eau potable, n'accèdent pas à la nourriture. J'ai lu un dernier rapport, n'est-ce pas, de l'OMS qui disait que le 78% des Congolais accèdent très difficilement à un repas par jour. Apparaissent, n'est-ce pas, c'est que toutes ces désorganisations, tous ces dysfonctionnements où les gens ne font pas des toilettes, où les gens ne se lavent pas les mains, où les gens, donc ce sont des séquelles d'une très grande pauvreté. Et je crois que, comme a dit tout à l'heure l'intervenant de la Suisse, nous affichons une pauvreté qui déstructure totalement, qui déstructure mentalement, qui déstructure littéralement l'homme congolais. L'homme congolais aujourd'hui n'est pas un individu sur qui on peut compter pour faire le développement. Il est totalement déstructuré parce que le propre d'une pauvreté qui est devenue intense, c'est de rendre l'être humain incapable de sa propre valeur. Le Congolais aujourd'hui n'a plus, il est incapable de se rendre compte qu'il est un humain et qu'il a perdu toute possibilité, enfin toutes les capacités qui font, n'est-ce pas, de la créativité, de la propriété. Regardez même l'environnement dans lequel il vit. Nous sommes le seul pays au monde où les gens, n'est-ce pas, jettent des saletés partout. Ils boivent un sachet d'eau, l'eau sale, et ils jettent sur le boulevard. Donc c'est l'ensemble de tous ces facteurs-là. Ce ne sont pas des facteurs qui sont nés avec l'homme. Ces facteurs naissent d'une grande pauvreté et surtout de l'abandon que l'État congolais affiche aujourd'hui, n'est-ce pas, à la vue du citoyen congolais.
Chef des travaux Pascal Kitenge de Mbanzangungu au Bas-Congo, la présence de ces maladies nous convainc de la perméabilité de notre pays du fait de l'immigration des populations, mais aussi du contrôle des maladies dans nos frontières. Il faut pour ce faire doter les services des grandes antennes des moyens conséquents afin de les rendre capables non seulement de détecter, mais aussi de prévenir ces maladies par des vaccins à la frontière, comme cela se fait sous sous d'autres. Si on est déjà en plein pied dans la deuxième partie, Emmanuel Kabongo, que faire pour vous, d'après vous, pour éradiquer toutes ces maladies?
Moi, je dis toujours que quand un pays est en guerre, et nous sommes en guerre depuis une vingtaine d'années, ce qui se fait que les pays en profitent pour se reconstruire. Reconstruire, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire la capacité de riposte, de prévention, la capacité de prise en charge, d'autoprise en charge, la capacité de fonctionnement maximale. On l'a vu dans beaucoup de pays d'Occident, aussi bien en Allemagne, n'est-ce pas, que quand l'Allemagne était en guerre, c'est à ce moment-là que la science a continué à, n'est-ce pas, à se développer, qu'ils ont développé des capacités d'hospitalisation, de réplique. Et curieusement, chez nous, et qu'on a eu pendant la guerre, c'est l'Allemagne qui a construit une grande armée, mais curieusement, chez nous, depuis que la guerre nous ensevelit, nous sommes non seulement en train de perdre toutes les capacités au niveau même de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la santé, au niveau de... Donc, c'est comme si tout ce qui nous... Aujourd'hui, les Congolais a perdu l'esprit d'un être humain. Parce que l'absence de l'État, qui est très criant, qui est très criante, démontre que le Congolais a perdu ce qu'on peut appeler l'esprit, c'est-à-dire la capacité d'agir, la capacité de se développer. Je pense même quand on regarde aujourd'hui vous regardez le Congolais ici, je crois qu'on aura beaucoup de difficultés pour s'appuyer, pour se développer. C'est comme si c'était fait expressement en assassinant l'État, c'est-à-dire on rend le policier qui devient un rançonneur, le soldat devient un tueur, l'administratif devient, n'est-ce pas, le chef Madou Siabana, tout ça. On a tué l'esprit au Congo, c'est-à-dire on a tué ce qui fait l'identité, c'est-à-dire on a tué le Congolais, ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire sa propre culture. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que nous nous mettions, à un travail de fond pour dire il faut reconstruire le Congo. Et je crois que c'est une tâche qui n'est pas la tâche d'un individu ou d'une clique ou d'un gouvernement, c'est la tâche de tout le monde de se rendre compte que nous devons tous nous remettre en cause, que nous sommes à la risée de tout le pays du monde, et un grand continent, un pays sous-continent, avec 70 millions de personnes incapables de s'en sortir. Et s'en sortir. Donc il faut nous remettre en cause parce que l'État n'existe qu'en fonction de ce que nous en faisons. L'État n'existe qu'en fonction de ses représentants qui sont la police, l'armée et tout, et n'est-ce pas de l'esprit que nous lui donnons. Donc je crois qu'il est temps, plus que si nous ne voulons pas disparaître en tant qu'être humain, de nous mettre à la tâche de reconstruire l'État dans toutes ses structurations, dans toutes ses instances, pour que nous puissions non seulement gagner cette guerre qui est à notre porte depuis une vingtaine d'années et qui nous décime, mais aussi gagner des guerres internes qui sont des guerres des épidémies et de la famine.
Docteur Félix Kabangé-Numbi, je rappelle que vous êtes ministre de la Santé publique. Il y a cette question qui vient de tomber d'un auditeur. Ces derniers temps, on enregistre plusieurs cas de diarrhée chez les enfants. Certains médecins pédiatres parlent d'une épidémie de gastro-entérite. De quoi s'agit-il et quelles sont les mesures à prendre pour prévenir cette épidémie chez les enfants?
Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir des précisions pour savoir ça vient de quel coin de la République? Ça me permettrait de savoir exactement quelle est la spécificité de ce coin.
Non, l'auditeur n'a pas marqué la
provenance. Il n'y a pas de problème. En fait, les diarrhées simples sont constatées dans la plupart des cas chez nous en République démocratique du Congo. Elles sont d'ailleurs sous surveillance. Et n'oublions pas que ces diarrhées chez l'enfant peuvent être liées à des origines tout à fait virales. D'ailleurs, c'est la cause la plus fréquente. Mais également, le paludisme simple ou compliqué peut également se manifester par la diarrhée. Donc, ce qui est conseillé quand un enfant fait de la diarrhée, il est important de pouvoir l'amener à l'hôpital. Mais la plupart des diarrhées, en dehors du fait qu'elles soient virales, ce sont des bactéries, donc liées également aux mains sales. Donc, nous revenons sur l'hygiène individuelle, l'hygiène au niveau de la maison.
Donc, il est trop tôt de parler d'une épidémie de
Non, pas d'épidémie jusqu'à présent. Sont déclarés par rapport aux diarrhées chez les enfants.
Alors par rapport aux autres maladies, Monsieur le Ministre, que faut-il pour les éradiquer finalement? Docteur Emmanuel Kabongo a parlé pratiquement de la reconstruction de l'État dans son ensemble. Quelles sont vos propositions?
C'est vrai, je remercie Emmanuel Kabongo, Docteur Kabamba tout à l'heure, mais permettez-moi quand même, parce qu'à un certain moment, ils sont revenus à plusieurs reprises sur l'absence de l'État. Nous assumons la continuité, mais nous tenons tenons à dire que depuis un certain temps, il y a un nouveau leadership sur l'ensemble de la gouvernance au niveau de la République démocratique du Congo. Mais je suis d'accord avec Emmanuel Kabongo quand il dit que c'est l'homme, c'est toute la société qu'il faut finalement réformer au niveau de la République. Il faut une prise de conscience collective au niveau de la République. Je suis d'accord avec Dr Kabamba quand il parle de la prévention. Nous devons sensibiliser nos populations. Aujourd'hui, je suis heureux, j'ai rencontré le ministre de la Nouvelle Citoyenneté et des Médias. Nous avons échangé longuement avec lui par rapport à la situation d'Ebola, par rapport au VIH, mais par rapport à la santé en général. Sur les médias, particulièrement à Kinshasa, à longueur des journées, c'est de la musique qui passe et des émissions qui n'ont rien de caractère éducatif. Et nous avons eu une grande réunion avec les responsables des médias privés où le ministre lui-même s'est impliqué pour que les différentes chaînes de télévision et de radio à travers la République fassent de la sensibilisation. Ça, c'est le premier volet.
Deuxième volet, je vous en prie, très rapidement, nous restons.
Merci. Deuxième volet, c'est justement l'assainissement et l'assainissement du milieu, qui est très important parce que lorsque on assainit les milieux, ça permet d'éviter toutes ces maladies dorsales, de massales. Et il y a également l'adduction en eau potable. Mais il est important que chacun, à son niveau, puisse justement respecter les mesures d'hygiène et les mesures de prévention.
Docteur Kabamba Mbwebwe, il y a Gary Wakigana de Goma en Nord Kivu qui est plutôt pessimiste. Il dit qu'il est difficile d'arrêter la résurgence des maladies en RDC car la politique pèse beaucoup plus sur la technicité, docteur.
Bon, écoutez, tous ces gens qui posent des questions, on dirait qu'on s'est concerté avec eux. Je pense que effectivement, c'est un tout. Il ne faut pas décupler le problème de santé parce qu'il est imbriqué dans l'ensemble de ce qui est en train de se passer au niveau du pays. On l'a dit tout à l'heure, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de pauvreté, il y a plusieurs types de problèmes qui aujourd'hui peuvent expliquer la situation telle que nous sommes en train de la vivre. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Tant qu'il y aura un problème politique sérieux, nous risquons de ne pas trouver une solution. Mais en ce qui concerne purement la santé, je crois, et j'insiste là-dessus, personnellement, nous, au G14, nous disons que il faut regarder les gens en face et leur dire qu'il faut un budget conséquent au département de la santé. Quelles que soient les bonnes volontés du ministre de la Santé qui est là, il peut, avec des très belles idées, échouer tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens de toute cette ambition qui est tout à fait noble. Il faut que la presse fasse ceci, il faut que sur le plan environnemental on fasse cela, ainsi de suite, et que les moyens qu'ils doivent accompagner n'y sont pas. Donc ça, c'est un premier problème qu'il faut en tout cas souligner avec beaucoup d'insistance. Et ensuite, j'insiste aussi dans la désignation des différents responsables. Le ministre de la Santé, il a toute une panoplie de gens qui sont à travers le pays. On doit privilégier la compétence. Nous devons faire un effort pour que ce problème de clientélisme politique, on y mette un terme. Vraiment, ça ne fait pas bien de voir des gens incompétents, notoires, et qui ont même des tournées et qui sont promus.
Et en guise de conclusion, docteur Kabamba?
En conclusion, je crois, avec, en tout cas, la solution, parce que le Congo est malade, si on peut traiter le Congo, et en ce qui concerne la santé, on donne les moyens conséquents et on met des gens compétents, il y a moyen de pouvoir agir essentiellement sur la prévention et de combattre toutes ces épidémies. Voilà.
Merci docteur Kabamba Mbwebwe. Docteur Emmanuel Kabongo, je reviens sur l'aspect communication, éducation. L'hygiène a perdu toute sa place même dans l'enseignement, en guise de conclusion.
Oui, je pense que je prendrai une conclusion plus générale. Je crois que reconstruire l'État, c'est-à-dire en tant que capacité d'un peuple à se conduire, à vivre avec bonheur sur son propre sol, ce n'est pas, ça ne se fait pas dans un jour, ou ça ne se fait pas dans la léthargie ou dans l'anomie. Il faut que la population congolaise, qui est quand même une population évaluée à plus ou moins 70 millions d'êtres humains, puisse faire des exigences fortes sur le gouvernement, puisse faire des gens fortes sur ces politiciens, leur dire qu'on ne doit pas continuer comme ça. Parce qu'il serait, il est tout à fait aberrant de penser que la population congolaise ici puisse penser que non, on va reconstruire l'État quand les hommes de politique, quand les hommes de, qui sont à la, n'est-ce pas, à la gestion de cet État vont vouloir la reconstruire. Non, l'État s'est construit comme une exigence forte imposée par la population à ses dirigeants politiques, à ses dirigeants sociaux et tout et tout. Donc je crois qu'aujourd'hui, au moins que cette population ne veuille aujourd'hui n'est-ce pas s'exterminer, mais il est temps qu'elle puisse, à travers tous ces mouvements, toutes les possibilités qu'elle donne par la Constitution, imposer des exigences, n'est-ce pas, aux hommes d'État, pour que les hommes d'État reprennent, institutionnalisent les pouvoirs d'État au Congo.
Monsieur le ministre, un mot en guise de conclusion.
Je dirais que la santé est l'affaire de tous. Je reste optimiste sur le contrôle ou l'élimination des différentes maladies du moment que nous tous nous mettions ensemble pour que nous puissions lutter contre ces maladies. C'est possible. Depuis le 1er janvier 2012, la RDC n'a pas déclaré un seul cas de poliovirus sauvage. Nous allons y mettre fin et ce sera possible demain de contrôler les autres maladies.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Guy Maté, Kéline Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Julien Nyamouini. À la technique, Patrick Kiasongwa et Mimi Kindou, coordination et présentation, Alain Rung Mouché. Vous nous avez suivis. Nous vous disons merci.